Chapitre 4. Un secret. Dans l'une des chambres du palais du Luxembourg, alors habitée par la reine-mère, deux personnes étaient assises. Toutes deux, pâles, agitées, tremblantes, interrogeaient de temps à autre, avec une visible inquiétude, l'aiguille d'une large pendule au cadran de velours noir qui correspondait avec la sévérité de l'ameublement. C'étaient Diane et Madame de Choisy. Madame de Choisy avait mis l'abbé au monde à 40 ans et elle le chérissait plus que ses autres enfants parce qu'il la faisait paraître jeune et qu'elle voulait encore paraître belle. L'aînée de ses filles avait été pourvue d'une charge de conseiller au Parlement de Toulouse. Le second, nommé de Balroy, avait un régiment. Le troisième était intendant de Lorraine et de Commercy. L'abbé de Choisy, comme le plus jeune, s'était vu destiné d'abord à l'église. On lui avait fait prendre le petit collet. Il avait alors 18 ans. Sa mère l'idolâtrait, mais d'un amour si aveugle qu'il devait passer nécessairement pour de la faiblesse. Ses deux frères résidant en province, comme on l'a vu, et l'autre passant sa vie à l'armée, même pendant l'hiver, Choisy, pour nous servir d'une expression commune mais claire, s'était vu bien vite la bride sur le cou, d'autant que sa mère avait perdu son mari dans un âge peu avancé. Les mœurs singulières qu'il suça avec le lait pourront certainement rencontrer un historien, mais il reculera toujours devant la tâche de les expliquer. On l'habillait en fille dès son plus jeune âge, et sa mère elle-même se plaisait la première à l'ajuster. Chaque fois que le duc d'Orléans venait au logis, et il y venait au moins 2 ou 3 fois la semaine, il rencontrait invariablement sous ce costume. Monsieur lui faisait 1000 amitiés dès qu'il arrivait, suivi des nièces du cardinal Mazarin et de quelques filles de la reine. Si nous l'en croyons, on lui trouvait beaucoup de grâce habillé en fille. Un jour qu'il était allé voir Madame de Lafayette, à laquelle il rendait de fréquentes visites, cette dame, l'ayant remarqué avec des pendants d'oreilles et des mouches, lui avait dit que ce n'était point la mode pour les hommes et qu'il ferait bien mieux de s'habiller tout à fait en femme. Ce suffrage le décida. Il se fit tailler les cheveux afin de paraître mieux coiffé. Il prit le plus bel habit de femme qu'il put rencontrer au temple et alla rendre visite à Madame de Lafayette avec ses pendants d'oreilles, sa croix en diamant, ses bagues et 10 ou 12 mouches. « La belle femme, mon Dieu !» s'était écriée Madame de Lafayette en le voyant. « Vous avez donc suivi mon avis ? Vous avez vraiment bien fait. Demandez plutôt à Monsieur de la Rochefoucauld. » Ce seigneur, qui se trouvait alors chez cette dame, applaudit fort à la figure du galant abbé. Madame de Lafayette, qui lui avait conseillé un peu trop légèrement de s'habiller en femme, se crut obligée de faire agréer dans les compagnies une telle mascarade. L'autorité d'une personne de ce poids fit que le monde, assez porté de lui-même à la nouveauté, ne parut pas blessé du travestissement de l'abbé de Choisy. Cette espèce d'approbation l'encouragea. On le voyait sans cesse avec des habits de femme. Il faisait ainsi ses visites, allait à l'église, au sermon, à l'opéra, à la comédie. Il semblait qu'on y fût accoutumé. Il se faisait nommer par ses laquais Madame de Ganzy ou Comtesse de Ganzy et il se fit peindre par Ferdinand. Ce fameux peintre italien en fit un portrait de femme qui attira les yeux de tout le monde. L'abbé de Choisy allait à la cour du duc d'Orléans chaque fois que ce prince était à Paris. Un jour, il invita à son bal M. de Choisy et lui fit dire de s'y trouver en robe détroussée et à visage découvert. Il chargea le chevalier de Pradine de le mener à la courante. L'assemblée en fut ravie. On lui trouva beaucoup de grâce car l'abbé dansait dans la perfection. Si les lignes que nous venons de citer n'étaient pas tirées textuellement de la vie même de notre héros, on les croirait presque une gageure. Mais nous les devions à nos lecteurs, ne fût-ce que pour mieux leur faire comprendre les scènes qui vont suivre. En ce temps, qui vise au sérieux et à l'ennui, personne ne comprendrait ces sortes de travestissements par l'analyse. Nous nous bornons donc à l'invocation des faits. Il suffirait toutefois aux examinateurs patients d'explorer les mœurs de la Fronde, cette époque fertile en contresens de toute nature, pour y trouver une excuse à la fantaisie de notre abbé. Le temps des minorités, dit quelque part le chevalier de Gramont, fut toujours excellent pour les types originaux. La fureur du déguisement fut alors poussée au comble, tout le monde avait un masque. C'était pour ainsi dire un outrage à la rectitude de la vie et à la raison que ces temps-là. Pourquoi Choisy, homme d'esprit et de réflexion à ses heures, avait-il pris des habits de femme et surtout, pourquoi les garda-t-il? C'est ce qu'il ne nous est pas donné d'expliquer autrement que par l'assurance des écrivains qui ont retracé sa vie. Dans la sienne, où il se pose comme son propre historien, il ne met pas même en doute ces faits dont le romancier a le droit de s'emparer. Madame de Choisy se trouvait donc ce jour-là plongée avec Diane dans la plus mortelle inquiétude. L'aube commençait à peine et avec elle les bruits du dehors quand elle entendit des pas sonores dans l'escalier. Par un mouvement instinctif, son cœur battit. Elle devint si pâle que Diane se vit forcée de la soutenir. « Mon Dieu, ce n'est pas lui !» dit la jeune fille en revenant après avoir fait quelques pas dans le corridor. « C'est un page de la reine !» « Ah, mon sang se glace! Que lui est-il donc arrivé ?» Diane d'Erfort aimait Choisy parce que sa mère la couvrait de son amour. Elle l'appelait sa colombe. La grâce enchanteresse et pudique de la jeune fille consolait sa protectrice de certains ennuis secrets, ennuis que nul, excepté Madame de Choisy elle-même, ne pouvait connaître. Diane lui avait raconté son entrevue rapide au bal avec son fils, et la prière étrange que lui avait adressée le jeune homme de ne pas sortir de ce bal avant une heure. Mille idées inquiètes, sinistres, assiégeaient encore les deux femmes lorsque tout à coup la porte s'ouvrit. L'abbé, pâle et sa toilette en désordre, entra dans l'appartement. « Que s'est-il donc passé ?» lui demanda sa mère d'une voix entrecoupée par son angoisse. « D'où venez-vous ? Parlez !» « Je ne puis parler que devant vous, madame, » répondit l'abbé de Choisy. « Il faut que nous soyons seuls. » Madame de Choisy pria Diane de se retirer. Au moment où la jeune fille passait auprès de Choisy pour le laisser seul avec sa mère, elle lui dit tout bas avec un sourire. « C'est mal, c'est bien mal, monsieur. Mais je vous connais. Oh, vous me conterez tout !» Choisy s'efforça de sourire en regardant sortir Mademoiselle d'Erfort. Mais dès qu'il se vit libre avec sa mère, il cacha sa tête silencieusement entre ses deux mains. Une larme tremblait au bord de ses cils et il eut besoin de tout son courage pour entamer son récit. Ce récit fut bref. L'abbé racontait à Madame de Choisy la ruse dont il s'était servi pour sauver les jours de Diane, le château dans lequel on l'avait mené, et les paroles étranges dont un jeune homme inconnu s'était servi en lui parlant de sa mère. Le front de Madame de Choisy devint tout à coup si livide que l'abbé eut peur. « le nom de cet homme » dit-elle, les lèvres pâles et serrées par la colère. « Cet homme, madame, m'a remis lui-même une lettre pour vous. Une lettre, dit-il, qui doit tout vous expliquer. Il se nomme le comte d'Hossberg. »«
Hossberg !»
murmura Madame de Choisy, terrifiée. Des gouttes de sueur perlaient son front, tout son corps tremblait. Elle chercha dans son égarement l'appui d'un fauteuil. « Le comte d'Hossberg, poursuivit le jeune homme, c'est un nom que je n'oublierai de ma vie. « Malheureux ! S'écria-t-elle en recevant la lettre des mains de son fils et en faisant sauter avec précipitation son enveloppe. « Mieux vaudrait pour vous et pour moi que vous ne l'eussiez jamais vu. » D'un geste rapide, elle approcha la lettre d'une bougie. Cette lettre était écrite en chiffres. Le nommé l'Espagnol, que le cardinal de Richelieu avait érigé en déchiffreur à titre d'office, eût pu seul en donner l'explication. Mais Madame de Choisy connaissait sans doute cette mystérieuse interprétation de l'écriture. À peine eut-elle parcouru cette page tracée à la hâte qu'elle se laissa tomber sans mouvement sur un sofa. L'abbé de Choisy, cédant à un élan de curiosité invincible, se précipita alors sur la lettre qui venait de voler sur le parquet. C'était une énigme pour lui. Il éleva les mains au ciel avec désespoir. Un silence glacé régnait entre sa mère et le jeune homme. Un instant, il eut la pensée d'appeler Diane. Une sorte de honte le retint. À tout prix, il voulait savoir ce que contenait ce billet. Il eût donné sa vie pour en découvrir le sens. Choisy aimait sa mère de cet amour sain et respectueux qui regarde le soupçon comme un outrage. Le doute sacrilège n'entre jamais que dans les cœurs vils et corrompus. « Ma mère » s'écria-t-il, « ma mère !» en baisant ses mains, aussi froides alors que le marbre, et en s'efforçant de les réchauffer sous ses baisers. « Qui m'appelle ?» demanda Madame de Choisy d'une voix faible. Le vent de la mort semblait presque peser sur elle, et Choisy ne vit pas sans une amertume douloureuse l'altération de son beau et noble visage. « c'est moi, ma mère !» dit-il en cherchant à lui donner le courage qui lui manquait. « Le comte d'Osberg, lui !» répéta-t-elle, pleine de stupeur et d'épouvante. Et elle s'était levée, les yeux hagards, en semblant désigner alors à son fils quelque fantôme invisible. « Ma mère, poursuivit Choisy, cette lettre, je le vois, a produit sur vous un effet prompt et terrible. J'ignore ce que cet homme vous y dit, mais ce que je sais, moi, c'est qu'il faut que je le tue. » En parlant ainsi, Choisy s'était relevé de toute la force de l'indignation et du courage. Venger sa mère, et venger Diane peut-être, lui paraissait un noble devoir. Si le comte eût été là, Choisy lui eût bien vite arraché sa propre épée. « Le tuer, avez-vous dit ? Le tuer ? » reprit-elle en arrêtant sur le jeune homme un regard d'une indicible pitié. « Mais vous ne savez donc pas que cela est impossible ? Vous ne savez pas ! » Elle-même s'interrompit. Elle regarda l'abbé avec une expression de tendresse et de terreur. « Choisy !» lui dit-elle en l'attirant doucement à elle. « Il faut que vous m'écoutiez. Parlez, ma mère, parlez, avant tout je vous appartiens. Parlez de grâce, j'écoute. » « Eh bien, reprit-elle, puisque vous avez vu le comte d'Osberg, puisque vous le connaissez... Oh, ne dites jamais que je le connais, moi, Choisy, je serai perdue. » « Vous, madame ?»« Moi, moi, votre mère, qui vous supplie d'ensevelir à tout jamais le nom de cet homme au plus avant de votre cœur. Silence au nom du ciel, au nom de votre mère que vous chérissez, silence !»« Rassurez-vous, ma mère, je me tairai, » répondit Choisy, ému au dernier point de cette scène. « La discrétion me sera facile, » ajouta le jeune homme en souriant, « le comte d'Osberg ne m'a rien dit. » « Vous ne savez rien !» reprit-elle avec surprise, et comme si cette confidence eût alors apporté un baume inconnu à sa blessure. « Oh, mon Dieu ! Et moi, malheureuse, qui allais tout dire à cet enfant » murmura-t-elle en versant des larmes de joie. En ce moment même, et lorsque Choisy, plus étonné que jamais, cherchait encore le sens des paroles de sa mère, un garde, à la livrée de son éminence le cardinal Jules de Mazarin, entra dans l'appartement. « Son éminence, dit-il à Madame de Choisy, fait demander à l'instant même Mademoiselle Diane d'Erfort. »« Mademoiselle Diane d'Erfort, répondit Madame de Choisy en rassemblant alors ce qui lui restait de force, se rendra bientôt chez son éminence le Premier ministre. « J'ai l'ordre de la conduire moi-même en carrosse au palais Mazarin, reprit l'exprès. » Madame de Choisy donna des ordres et Diane parut. En s'entendant appeler chez le cardinal, la jeune fille éprouva un léger trouble. « Rassurez-vous, Diane, lui dit l'abbé à voix basse en la reconduisant sur le seuil. Son éminence n'est pas si puissante qu'on ne puisse parfois lier parti avec elle. Ayez bon courage. Celui qui vous a sauvé une fois saura bien déjouer encore les plans de vos ennemis. » Quand Diane partit dans le carrosse qu'on lui amena, Choisy se tenait debout et la tête découverte sur les degrés de la petite porte donnant sur la rue. Elle ne le vit pas essuyer une larme furtive, larme de douleur et de rage, que le jeune abbé se promit bien de faire payer au grotesque amoureux de la reine-mère. « Ah » murmura-t-il, « il n'y a point encore de Louis XIV sous Mazarin, mais il y aura Choisy. »